Les dernières paroles que quelqu'un prononce avant de mourir revêtent une importance particulière parce que justement, ce sont ses dernières. C'est fini, il ne dira plus jamais rien. Alors on s'en souvient, on se les répète, on essaye de les interpréter, de se rappeler de l'intonation de la voix, de son dernier geste, de son regard. La deuxième épître de l'apôtre Paul à Timothée est son dernier écrit. Il a été condamné à mort par Rome et il sait que son pèlerinage ici-bas touche à sa fin. Alors ce qu'il dit dans cette lettre est comme scellé dans l'éternité car il n'y en aura plus d'autre après celle-ci. Il y fait plusieurs déclarations capitales comme le texte clé sur l'inspiration de la parole de Dieu que je lis. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Mais on retiendra surtout cette parole de triomphe qui est comme un épitaphe pour le grand apôtre Paul quand il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi ». Les voyages missionnaires de l'apôtre que nous rapporte le livre des Actes eurent lieu entre l'an 48 et 56 de notre ère. De 56 à 60, il passe d'un tribunal romain à un autre pour échouer à Rome. Pendant 2 ans, de 61 à 63, il est emprisonné, mais assigné à résidence et il pouvait recevoir qui il voulait, ce qui lui a permis d'avoir de nombreux contacts avec toutes sortes de personnes. Après avoir été libéré de son premier emprisonnement, il a pu reprendre son bâton de pèlerin pendant plusieurs années. Seulement, pendant ce temps, un gros nuage noir s'élève à l'horizon. Le foudingue Néron ordonne de mettre le feu à Rome, sa capitale, qui brûla pendant 6 jours et 6 nuits. Non seulement les taudis en bois des pauvres partirent en fumée, mais les belles villas en marbre de l'aristocratie, les bâtiments administratifs et les temples païens furent également détruits. L'historien romain Tacite écrit « Tous les efforts humains, tous les dons extravagants de l'empereur et les offrandes aux dieux ne pouvaient écarter l'idée sinistre que ce désastre était dû à un ordre de Néron. Alors, pour se débarrasser de ces rumeurs, Néron a accusé et torturé une classe de citoyens qui étaient haïs pour ses abominations et que la populace appelait chrétiens. » Fin de citation. C'est à l'occasion de cette persécution horrible que l'apôtre Paul fut à nouveau arrêté. Pendant sa première détention à Rome, Paul s'attendait à être libéré et il le fut. Mais quand il écrit cette deuxième épître, il sait que les dés sont jetés. Il est enchaîné dans un cachot froid et humide et sans le moindre espoir de libération. En fait, on lui a déjà dit qu'il serait exécuté. Mis à part un dénommé Onésiphore et Luc, qui est avec lui, tous ses compagnons de route et de ministère l'ont abandonné. Leur ingratitude et leur lâcheté ont dû lui faire beaucoup de peine, lui donner un coup au cœur. Comme Jésus, il fut lâché par ceux en qui il avait confiance. Lors de sa comparution devant le tribunal, personne n'a voulu témoigner en sa faveur. Cependant, l'apôtre leur a pardonné, disant qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. À cause de sa situation épouvantable, Paul exprime de façon poignante à Timothée son désir de le revoir. À 2 reprises, il l'implore de venir dès que possible. On ignore si cela a pu se faire. Dans cet épître, Paul confie à Timothée, son fils dans la foi, la charge de lui succéder dans son ministère et lui fait toutes sortes de recommandations. Par exemple, il lui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu, en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Je te le recommande solennellement, proclame la parole. » Insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Tout au long de cette lettre, on sent que Paul se fait du souci pour Timothée, craignant qu'il ne faiblisse. Bien qu'il le félicite sur quelques points, il lui adresse surtout des exhortations. Par 25 impératifs, il lui rappelle ses devoirs. C'est ainsi qu'il l'exhorte à ranimer son don, à ne pas être timide, à ne pas avoir honte, mais à souffrir pour l'Évangile, à garder la vérité, à rester fort en Jésus-Christ et à persévérer dans l'annonce de la parole de Dieu. Quand Paul écrit cette seconde épître, l'église d'Éphèse est en pleine déconfiture, en dérive théologique et morale. Les anciens, Timothée inclus, sont encore plus faibles et moins efficaces qu'ils ne l'étaient lors de la rédaction de la première épître. Comme cette seconde lettre était la dernière que Paul écrivait, elle est très personnelle et on y trouve des références à de nombreux individus. Cependant, elle est aussi très sérieuse car elle annonce l'apostasie de l'Église, l'abandon des principes fondamentaux du christianisme tels que les apôtres les ont enseignés. Ce rejet de la foi n'est pas dû à l'ignorance, mais à une intention délibérée. Un apostat est quelqu'un qui connaît la vérité et qui choisit de s'en détourner en toute connaissance de cause. À la fin des temps, il n'y aura pas de conversion massive à Jésus-Christ, ni l'établissement du ciel sur la terre par une humanité éclairée. Au contraire, l'apostasie sera telle qu'il sera difficile de trouver la foi en Jésus-Christ. En fait, à la fin des temps, il y aura deux grands départs. Premièrement, l'enlèvement de l'Église universelle, celle qui est invisible et qui appartient au Christ. Je lis un passage. « Au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. » Une fois que les vrais croyants auront disparu de la surface de la terre, la chrétienté, qui ne sera plus qu'une coquille vide, se détournera totalement de l'enseignement des apôtres. Ce sera le deuxième grand départ, celui de la foi. Un jour, Jésus a posé une curieuse question à ses disciples. Il leur a demandé « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Ils ne cherchaient pas une réponse parce qu'ils la connaissaient très bien, mais ils voulaient les préparer aux difficultés à venir afin qu'ils persévèrent. Cette vision de l'avenir n'est pas en phase avec l'idée reçue que l'Évangile doit réformer le système social et unir tous les hommes dans un monde juste. Les optimistes inconscients qui aiment à porter des lunettes au vert rose n'accordent aucun crédit aux sinistres prédictions contenues dans la seconde épître à Timothée. Pour eux, Paul est un obscurantiste et moi aussi d'ailleurs. Aujourd'hui déjà, l'Église officielle, peu importe son étiquette, catholique, protestante, orthodoxe, n'est qu'une ombre de ce qu'elle était au premier siècle. On y trouve surtout ce qui en met plein les yeux, la pompe, les rites et surtout, avant tout, la gloire de l'homme. L'Église invisible, celle de Jésus-Christ, n'est pas concernée. Les vrais croyants, quelle que soit leur étiquette religieuse, qui sont répartis sur toute la terre, ont tous leur place réservée dans le convoi céleste qui les emmènera dans la gloire. Soit dit en passant qu'il y a encore des places, mais il vous faut un ticket d'entrée qui vous sera donné gratuitement dès que vous aurez accepté de placer votre confiance en Jésus. À cause de l'apostasie qui est inévitable, dans leur dernière lettre, qui est aussi leur chant du cygne pour ainsi dire, les apôtres Paul et Pierre mettent beaucoup l'accent sur l'importance de la parole de Dieu. Les Écritures affirment que nous sommes absolument corrompus et qu'il faut remplacer notre nature mauvaise par une nouvelle qui est à l'image de Dieu. L'homme est dans un tel état qu'il ne peut pas être sauvé en obéissant parfaitement à Dieu, parce qu'il en est absolument incapable, et il ne peut pas non plus être sauvé par une obéissance partielle, car elle est inacceptable aux yeux de Dieu. La bonne nouvelle de Jésus est donc la seule solution à la dépravation totale de l'homme. C'est Dieu qui, dans sa grâce, va chercher le pécheur pour le sauver sur la base de la mort expiatoire et de la résurrection de Jésus-Christ. La foi des Écritures est à l'opposé de la foi humaniste en vogue dans notre culture sécularisée, laïque et athée. Ces fausses croyances se reflètent dans le système éducatif qui opère sur la base que la nature morale de l'homme peut être améliorée ou réformée par un agent extérieur comme un enseignement adéquat, genre « Allons, soyons raisonnables !» Cette vision faussée du monde a contribué au développement des nouvelles théologies d'obédience protestante qui sont apparues au siècle dernier. Elles sont de trois types. Tout d'abord, il y a le prédicateur psychologue qui enseigne la pensée positive, comment atteindre son plein potentiel ou vaincre ses démons. Ensuite, on trouve le pasteur axé sur les relations sociales qui prêche que faire le bien, c'est mieux que faire le mal, et quand tout le monde est gentil, tout le monde est content. Ce prédicateur est un homme aux bonnes manières, qui parle à des gens de bonnes manières et qui les exhorte à améliorer leurs bonnes manières. Qu'est-ce qui pourrait être plus gnangnan et plus insipide? Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit à l'église de Laodicée « Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant! Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » La troisième sorte de nouvelle théologie fait du social. C'est ça leur évangile. Ils prêchent pour de meilleures relations entre les hommes. Le pacifisme, la justice sociale, l'éradication de la pauvreté. Rien de mal à cela, mais ces activités n'ont rien à voir avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ et c'est une belle utopie, même si leur intention est louable. L'homme ne peut pas de lui-même établir le royaume de Dieu sur la terre. Par contre, quand des ennemis ancestraux acceptent Jésus comme sauveur et seigneur, ils deviennent tout à coup frères et au lieu de s'étriper, ils se respectent et ont la capacité de s'aimer. La culture, la couleur de peau, le niveau social et économique n'ont aucune importance pour les croyants qui servent le Seigneur. Les disparités entre les êtres humains sont effacées par la foi en Jésus-Christ. La solution est la seule au problème entre les hommes est la grâce de Dieu manifestée sur la croix en la personne du Christ. Dieu a créé à partir de rien, et tant que quelqu'un ne reconnaît pas qu'il est rien devant lui, Dieu ne va rien faire pour lui. Je commence maintenant à lire la seconde épître de Paul à Timothée. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ, salue Timothée, son cher enfant. Versets 1 et 2. Paul commence cette lettre en affirmant d'une part son amour pour Timothée, son enfant dans la foi, qui lui causait beaucoup de joie, et d'autre part son autorité d'apôtre. Il rappelle ainsi à son disciple que malgré leur association étroite, il était au-dessus de lui, parce qu'il avait été choisi comme apôtre par le Seigneur et qu'il écrivait de sa part. Les relations intimes n'excluent pas l'ordre hiérarchique. Si les parents n'exercent pas leur autorité sur leurs enfants, tous les membres de la famille auront le même statut et seront comme une couvée de frères et sœurs enchevêtrés les uns dans les autres. Une telle situation ne peut que mener à de graves problèmes. Pareillement, une entreprise ne peut pas fonctionner si les employés refusent d'obéir au patron. Dans toute organisation humaine, il faut une autorité qui dirige. Dans le Nouveau Testament, le titre d'apôtre signifie « représentant, ambassadeur ». C'est dans ce sens qu'il est utilisé pour les 12 hommes que Jésus a choisis. Et pour Paul aussi, quand le Seigneur l'a appelé du haut du ciel à le servir. Paul écrit en tant qu'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Il est ambassadeur envoyé par Dieu le Père et Dieu le Fils pour annoncer la vie promise. Comment accepte-t-on une telle promesse ? Par la foi. La vie éternelle s'obtient en plaçant sa confiance en Jésus-Christ parce qu'il a offert le sacrifice parfait qui expie le péché. Il n'existe aucun autre moyen de salut. C'est en lui seul, en Jésus, que se trouve le salut dans le monde entier. Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Fin de citation. La vie éternelle promise est accessible dans l'union avec Jésus-Christ. Il s'agit de la participation du croyant à sa mort, à sa résurrection et à sa vie. Jésus et lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, une vie abondante. Je continue le texte. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, bonté et paix. Verset 2. Cette salutation d'usage n'est pas une simple façon de parler. L'apôtre désirait vraiment et priait afin que Dieu accorde sa grâce, bonté et paix à Timothée. L'amour de Paul pour son fils spirituel était sincère. Je continue le texte. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure à l'exemple de mes ancêtres lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Verset 3. Alors que l'apôtre est incarcéré dans un donjon froid, humide, sombre, dégueulasse et puant, et attend d'être exécuté, il ne manifeste aucune amertume, pas un soupçon de ressentiment ou de haine envers Néron, les soldats qui l'ont arrêté ou le juge qui a signé son arrêt de mort. Il ne se plaint pas de son sort et ne proteste pas comme je l'aurais fait, disant que tout ce qui lui arrive est profondément injuste et que Dieu n'aurait jamais dû permettre des choses pareilles. Pour Paul, sa vie ou sa mort se réduisait à une seule chose, glorifier Dieu. Alors en définitive, son sort terrestre lui importait très peu. Tant qu'il était en vie, il servait Dieu avec une conscience pure. Ailleurs, il écrit « Nous nous sommes conduits dans le monde et tout spécialement envers vous, avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu. » Paul servait Dieu à l'image de ses ancêtres, c'est-à-dire les patriarches et les prophètes. Mais contrairement à Timothée, qui comptait des personnes pieuses dans sa famille immédiate, l'apôtre n'avait personne. Certes, son héritage religieux était impressionnant, mais pour lui, c'était juste bon à être mis au rebut. Malgré ces circonstances horribles, Paul est reconnaissant à Dieu pour le privilège qu'il a eu d'avoir connu Timothée et d'en avoir fait un disciple de Jésus-Christ. Cette expression d'affection a dû faire chaud au cœur de Timothée car il savait que l'apôtre n'usait jamais de flatterie, mais disait la pure vérité. Ces paroles avaient pour but d'encourager Timothée à persévérer dans son ministère afin qu'il se montre toujours digne de la confiance qui lui était faite, surtout qu'en plus, Paul le portait constamment dans la prière. Je continue le texte. « Je me rappelle tes larmes et j'éprouve un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. » Verset 4. Paul, qui aime véritablement Timothée, n'a pas peur de lui témoigner son affection. Il désire le revoir plus que tout parce que ça lui mettrait du baume au cœur et humainement parlant, il en avait bien besoin au vu de sa situation. Il exprime ce même désir plus loin quand il implore Timothée disant « Efforce-toi de venir me rejoindre dès que possible. Tâche de venir avant l'hiver. » Cet amour était réciproque. La dernière fois qu'ils se sont vus, quand Paul a dû quitter Éphèse, ce départ avait brisé le cœur de Timothée. Je continue le texte. « Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. » Verset 5. Le mot pour sincère est « non hypocrite. La foi de Timothée était authentique, sans prétention et sans faux-semblant. Il faut dire que sa mère et grand-mère étaient de vraies croyantes en l'Éternel sous le régime de l'Ancienne Alliance. La preuve est qu'elles acceptèrent Jésus comme Messie et Sauveur quand Paul leur présenta la bonne nouvelle lors de son premier voyage missionnaire. Apparemment, Timothée s'était également converti à ce moment-là ou peu après parce que lors du second voyage missionnaire de l'apôtre, les croyants de la ville natale de Timothée, qui s'appelle Lystre et qui se trouve en Galatie, rendaient de lui un bon témoignage. Je continue le texte. « C'est pourquoi, je te le rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. » Verset 6. Comme j'ai déjà dit, il semble que la consécration de Timothée avait fléchi. Alors, Paul l'exhorte à se ressaisir en ravivant son don. Le mot « ravive » signifie « entretenir, ranimer une flamme ». Timothée devait donc continuer à utiliser les capacités spirituelles que Dieu lui avait données et qu'il possédait en lui. Il faut rappeler qu'au moment où quelqu'un accepte Jésus, Dieu lui donne certains dons, au moins un, qu'il doit utiliser pour aider à la construction et l'édification de l'Église du Christ à la gloire de Dieu. Quand un croyant a le sincère désir de servir le Seigneur, il sera guidé par son désir dans le domaine où il pourra le mieux exercer ses capacités spirituelles. Dans le cas de Timothée, il avait reçu ce don soit au moment de sa conversion à Jésus-Christ, soit plus tard suite à une révélation spéciale que Paul aurait eue le concernant. La transmission d'un don par imposition des mains est un des événements extraordinaires qui avaient lieu pendant la période apostolique. Aujourd'hui, il arrive aussi que des guérisons miraculeuses soient opérées de cette manière.